guerre au Liban voisin. C'est sans doute pourquoi en octobre dernier, Wissam El-Hassan, le chef de renseignement des forces de sécurité libanaises, a été assassiné.
Rendez-vous avec X, tous les samedis à 13h20 sur France Inter.
France Inter, la voix est libre.
15h04 sur France Inter, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Écœuré, révolté, dégoûté. C'est horrible ce qui se passe en Palestine. C'est horrible, monsieur Netanyahou. Vous devriez avoir honte. Et tous les gouvernements sont derrière lui, naturellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Baisser les bras, et puis il y a les gosses qui tombent sous les bombes. Ça me dégoûte.
Allô, bonjour, c'est Alexandra. Votre émission d'aujourd'hui m'a rappelé un bon souvenir que j'avais avec ma grand-mère, qui en fait passait des journées entières assise dans son garage à casser des télés pour récupérer le cuivre qui était à l'intérieur. Et c'était mon oncle qui lui ramenait ça avec une carriole, avec sa mobilette, et dans cette carriole il y avait des picsous géants. Et moi j'attendais qu'il arrive, et moi je lisais les picsous, et ma grand-mère cassait les télés. Juste pour info, en fait maintenant dans les décharges on peut plus récupérer, il y a des caméras, parce que moi aussi j'ai pris goût à aller à la jaille.
Oui, bonjour. Ben voilà, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de cette dame au sujet de la chirurgie en France. Et c'est vrai que la chirurgie en France, elle est là parce que l'État français, donc nous, tous les contribuables, paye effectivement pour que nous ayons des chirurgiens. Et je trouve qu'il est tout à fait normal que des gens qui ont été formés et qui font ce métier soient tout à fait en demeure de rendre à l'État et à la nation ce que cette nation leur a apporté. Donc je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de cette dame. Elle a 100% raison. Il faut arrêter les conneries.
Je téléphone pour la grève des chirurgiens. Bon, il y a de tout, hein. Il y a de bons foies, il y a de moins bons foies. Mais je veux dire là, parce qu'ils font des études longues, d'accord, 5 ans et plus peut-être, mais un ouvrier ou un employé qui arrive jusqu'au bac, disons, et après, il a toute sa vie à toucher le SMIC, toute sa vie. Beaucoup comme ça, hein, alors qu'ils réfléchissent. Attendez, un chirurgien qui disait qu'il touchait 15 000 euros, et encore il demande plus? Non, mais on va où?
En fait, tu vois ce qui nous rapproche, Daniel. C'est pour ça que je parle souvent à Daniel. C'est le rejet du capitalisme et la passion pour l'égalité. Je crois qu'on a ça en commun. Bon, sur les moyens pour y arriver, c'est peut-être là où on a parfois des divergences. Mais bon, ça, c'est sur les moyens, quoi. Mais sur le fond, quoi, c'est ça. La démocratie, c'est l'égalité, quoi. Et puis, voilà. Et puis, on ne peut pas sortir de là, quoi. S'il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de démocratie.
La banque PSA Finance, installée dans un paradis fiscal et filiale du groupe Peugeot, a été dégradée par les agences de notation. Elle risque prochainement d'être étranglée par les taux que lui imposeraient les marchés financiers pour se refinancer. Du coup, l'État, dont il faudrait réduire le poids dans l'économie, nous répète-t-on, lui promet une garantie financière d'un montant de 7 milliards pour calmer les marchés. Régis de Nîmes.
Bonjour, vous avez vu, un nouveau mot est apparu ces jours-ci dans le débat politique et public, c'est le mot clivant, clivant, clivant. Ça fait quelques temps que ça, qu'on entendait parler, mais bon, là, en ce moment, c'est un regain, voilà, de clivage. Ça, sur fond de... le droit de vote des étrangers. François Hollande estime que ce serait diviser, donc cliver le pays, que d'accorder le droit de vote aux étrangers extra-communautaires. Ben moi, je pense au contraire que ce serait justement cliver le pays, ne pas faire cette mesure, ce serait intégrer ou accepter encore plus, justement, nos amis extra-communautaires pour leur permettre de prendre vie, parole à la cité. Ça serait pas du tout clivant, ça serait une mesure d'acceptation, de tolérance, mais surtout pas de clivage.
Ce matin sur France Info, M. Auxet, président de la région Pays de la Loire, déclare qu'il est dommage que les opposants légitimes à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes se soient associés avec des professionnels de la guérilla urbaine. M. Auxet voudrait nous faire croire que les jeunes qui occupent actuellement la ZAD seraient des délinquants qui brûlent d'habitude les voitures de leurs voisins à la moindre occasion dans les quartiers défavorisés. Ce sont des jeunes instruits et écœurés quand ils voient bousiller une région pour des intérêts privés.
Eh bien, pas plus tard que demain, à Notre-Dame-des-Landes, là-bas, si j'y suis, sera présent. Et ce ne serait pas étonnant que vous entendiez des cors de chasse, un corps de chasse. Il est possible que le reporter, le grand reporter de là-bas, si j'y suis, qui sera là-bas, vienne avec un corps de chasse. Pourquoi donc ? Eh bien, vous allez comprendre au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. Taillot, taillot.
J'étais en train de songer que si la France avait 1700 milliards d'euros de dette, les États-Unis 17 000 milliards de dollars de dette publique, l'Allemagne 1800 milliards d'euros. Même la Chine aurait 30% de son PIB en dette publique. Le Japon, n'en parlons pas, c'est 230% de son PIB en dette publique. Les PIGS, bon, les PIGS sont quasiment en faillite, là. Portugal, Italie, Espagne, Grèce. Si tous les peuples du monde étaient endettés, à peu près 99% de la population, je me demande où sont les créances ? Qui détient les créances ? Et quand je fais 100% moins 99%, je me rends compte qu'en fait, il y a 1% de créanciers sur Terre. 1% qui détient toutes les dettes publiques. Et je ne parle que des dettes publiques. Même pas des dettes de la SNCF, des collectivités locales, etc., etc.
Pour répondre au monsieur qui se demandait s'il n'aurait pas dû voter Sarkozy suite à la conférence de presse du président Hollande, je lui rappelle que d'autres choix étaient quand même possibles. Faut pas tomber dans le piège du modèle américain du bipartisme qui a progressivement bâillonné et interdit toute alternative aux deux titans en criminalisant les partis communistes et socialistes au nom de la sécurité nationale. Je le renvoie à la lecture de Warzine pour comprendre les mécanismes d'entrave à la liberté d'expression et qui poussent à cette fausse fatalité du « il n'y a pas d'autre alternative ». Bien sûr que si, et un jour viendra. C'est Noël de Nantes.
Pour celles et ceux qui ne peuvent pas aller à Notre-Dame-des-Landes samedi, le repère de Limoges a décidé, lors de sa réunion mensuelle, d'organiser un rassemblement de soutien aux opposants à l'aéroport et invite les AMG à venir nombreux, donc samedi 17 novembre, place d'Aisne, à 14h30.
Je trouve que les bruits, la musique, tout ce qui découle des sons, c'est vraiment chouette dans ton émission. Quand tout s'embrase, t'as de beaux sons, tu sais. T'embrasses la terre entière. Et ça, c'est chouette.
Ça s'appelle un massacre, en fait.
Portez-y. On y va, s'il vous plaît, au rapport.
Darboulin, Darboulin, Darboulin. Darboulin, c'est bon.
Et là, je vois, vous avez
des animaux empaillés.
Voilà, des chevreuils empaillés. Ils ont tous chacun leur histoire, en fait. Surtout chacun dans des forêts différentes. Ça s'appelle un massacre, en fait.
Un massacre.
Voilà.
Et il y en a toute une série comme ça disposée tout le long d'un long mur. Et ça fait comme presque un rideau de bois de chevreuil.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est quand même un milieu qui est assez fermé. Hein. Si on ne connaît pas quelqu'un, par relation, on ne rentre pas comme ça dans un équipage en général.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Anaël Vergeau, à court, à corps... Et un cri. Flight number 2, arriving from New
York. On est à Fontainebleau. C'est samedi matin, il est 10h. On vient d'arriver en forêt et alors, c'est magnifique. Il y a des tapis de feuilles orangées sur le sol. Les feuilles des arbres sont jaunes, certaines sont encore vertes. Il fait assez humide, un peu froid. On est exactement au carrefour des feuillards. C'est un grand carrefour. Il y a beaucoup de monde ici, une cinquantaine de personnes, des voitures, des chevaux et des personnes qui sont là, habillées dans des tenues un peu particulières à l'ancienne. On s'apprête à partir en forêt pour chasser à court.
C'était pas le cheval de Vincent ? De Vincent Hirond ?
Elle est là, la cravate, le gilet et la redingote. D'accord ? Vous voyez Michel là, celle qui a le petit chapeau tyrolien là. C'est une redingote. Après, nous, on va tous mettre nos redingotes. C'est-à-dire, c'est dans le règlement.
Parce que chaque équipage a ses boutons. Et chaque équipage se reconnaît par ses couleurs et ses boutons. Nous, nous chassons le chevreuil ici au rallye tempête.
C'est la chasse à cours, à corps et à cri. Donc le cri des chiens, le corps. Et puis à court, parce qu'on court. Le cheval court, et nous on est dessus.
Et là vous avez un fouet.
C'est, y a des choses qui servent pas, mais on les met bah, pour faire joli, quoi.
Non, attendez, tournez pas votre bouton là. J'en vois qu'ils sont en train de tourner le bouton de leur transistor en disant non, on peut pas. Non, mais c'est pas possible, cette musique, la chasse à cours, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, vraiment, on supporte pas. Vous faites partie de ceux qui supportent pas, il y en a quelques-uns, probablement, parmi les auditeurs de là-bas, si j'y suis, qui supportent ni cette musique, ni cette chasse à cours, ou bien qui voit là-dedans un folklore anachronique, dépassé, ou bien qui sont carrément scandalisés par la chasse à cours, qui consiste, vous le savez bien, à pousser des chiens à tuer un cerf ou un chevreuil, et ensuite à dépecer cet animal et laisser les chiens se précipiter dessus, c'est la fameuse curée. Contre cette chasse, il y a toujours eu des hommes contre cette chasse. Montaigne disait déjà que les larmes du cerf lui avaient toujours semblé un spectacle très déplaisant. On sait comment, dans les années 80, il y a eu vraiment une poussée contre cette chasse à cours. Un certain Alain Bombard, très proche du président d'alors, François Mitterrand, en perdit sa place d'avoir voulu supprimer cet étrange rituel de la chasse à cours, interdit en Allemagne, interdit en Belgique, interdit en Angleterre, si bien que, se sentant menacés, ceux qui la pratiquent ont eu l'idée de s'ouvrir à... Alors, démocratiser, oui. Bon, enfin, disons, ouvrir cette pratique. D'abord au public, on peut suivre une chasse à cours, si l'on veut, à bicyclette, en auto même, à pied, bien sûr. Et puis, s'ouvrir à la participation à ces chasses et à ces clubs de chasseurs, eh bien, à des roturiers, la bourgeoisie, la classe moyenne supérieure qui se débrouille, qui essaye de monter socialement, peut maintenant faire partie de ces chasses, est inscrit dans une chasse. On appelle ça la démocratisation. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Comment ça se passe? Quel est le rituel? En quoi ça consiste? De très nombreuses chasses en France. Vous savez qu'on a beaucoup de forêts dans le pays, beaucoup de cerfs et autres chevreuils, et beaucoup de sangliers, évidemment. Donc, il y a chaque année un certain nombre de ces animaux sauvages qui doivent être tués, on dit prélevés par pudeur, soit par la chasse à tir, c'est-à-dire par balle, ou bien par ce procédé, par ce rituel très ancien et très traditionnel de la chasse à cours. Ça nous a semblé intéressant de suivre avec Anna Alverzo l'une de ces chasses où on va voir en appliquer les trouvailles de nos amis Michel et Monique Pinson-Charlot, qui ont les deux sociologues, qui ont étudié la grande bourgeoisie française et qui ont vu dans cette bourgeoisie la seule catégorie sociale, le seul monde social aujourd'hui en France qui sait faire du réseau, qui sait faire de la relation sociale, qui sait construire et entretenir son capital social à l'exclusion de tous les autres mondes sociaux qui, ben, les uns et les autres, ont vu disparaître ces liens, si bien que on parle beaucoup d'individualisme en France, dans les autres mondes sociaux, sauf dans celui-là, et on va voir que tout comme le golf, tout comme les rallyes, tout comme les galas divers et variés qui scandent la vie de ce monde social, la chasse, et notamment la chasse à courre, est un de ces lieux de lien où ce monde assure sa pérennité et son hégémonie. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, à cour, à corps et à cri.
80 chasseurs pour l'ouverture de la chasse dans un château riche en gibier. Une marquise au fin limier invita des chasseurs en masse. Il arriva de fin tireur, mais grande fut notre surprise. Au rendez-vous de la marquise, l'objet 80 chasseurs. Chasseur vit en campagne, dit la marquise, il faut partir. Que chacun se livre au plaisir, le son du corps nous accompagne. Au bruit des chants et des clameurs, plus d'une biche fut surprise. Accompagnant notre marquise, nous étions 80 chasseurs. Accompagnant notre marquise, nous étions 80 chasseurs. 80 chasseurs. Après cette illustre journée, on se disposait à l'amour. La marquise dans ses atours, par chacun d'eux fut convoité. Tous en obtinrent les faveurs, car la noble dame était grise. Et dans le lit de la marquise, comme j'ai dit,
cheval qui sort du box. Les chiens qui s'impatientent, qui sont dans le camion. Vous êtes combien à chasser alors aujourd'hui?
Là, on va être au moins 25 à 30 chevaux, deux attelages, puis il doit y avoir trois voitures de sécurité, je pense.
Une forêt là, magnifique.
On va vers le lieu du rapport.
Vers le lieu du rapport.
Le maître d'équipage va nous faire le rapport avec les gens qui, ce matin, ont fait le bois, c'est-à-dire, ont essayé d'aller voir, on dit par corps, un chevreuil, ce qui nous permettra de lancer l'attaque et la chasse un petit peu plus rapidement que si nous sommes obligés d'aller à la bille baude, c'est-à-dire aller au hasard.
Allez, on y va, s'il vous plaît, au rapport. Bien, bonjour à tous.
Bonjour à tous. Donc, moi, monsieur, ce matin, je suis parti du carrefour du Blaireau. J'ai pris la route de Milly, la touche au Mulet, la route de la Louve. Rien sur ce secteur, donc je me suis reporté sur le carrefour Fossier, Joinville, les Aiguisoirs. Et je n'ai rien non plus sur ces secteurs-là.
Bonjour à tout le monde. Pour ma part, donc, j'ai fait la route de Joinville, la 612, et je n'ai que des cochons. Mais ça ne vous intéresse pas, monsieur le président?
Pas vraiment, non.
Moi, j'ai choisi le meilleur secteur pour faire le bois. Donc, c'est facile. Et moi, je pense avoir des chevreuils au carrefour des ventes aux perches ou sinon aux chênes au chapon qui doivent être rembûchés normalement.
Bon, on va donc aller sur la brisée de Philippe. Philippe, combien de chiens ?
On a 38 chiens.
Mon petit-fils.
Bonjour. 3 ans.
Dis bonjour à la dame.
Bonjour. Comment tu t'appelles ?
Quentin.
Vous êtes prof ?
Moi, je suis professeur. Oui, professeur d'histoire-géographie à Melun au collège Nazareth à Voisenon.
Et vous, alors, vous êtes le maître d'équipage, c'est je vous qui gérez tout ce monde-là.
Je gère tout au niveau administratif, financier, humain. Et puis toute la partie chasse est maintenant confiée plus à mes 3 enfants, hein, Philippe, que vous voyez qui mène les chiens, mes 2 filles, Virginie et Cécile, et puis mon épouse. Allons-y, à cheval.
Alors là, on est au milieu des chevaux et des veneurs qui sont en train de se préparer pour chasser à court. Toute la question, c'est de savoir si ils vont réussir à prendre, comme ils disent, c'est-à-dire à tuer le chevreuil ou pas.
Vous savez, il y a des chefs et puis après, il y a des demi-chefs et des sous-chefs. Quand vous êtes en redingote noire, vous êtes ami de l'équipage ou gilet. Et donc, c'est...
Vous attendez les ordres.
Voilà, exactement. Le cheval est mis, le cheval est prêt à partir. Il est prêt à m'accompagner. C'est un ami, lui. C'est un nouveau. Je viens de l'acheter. Il s'appelle Timor, il a 6 ans. C'est sa 2e chasse avec moi. C'est Timor et il s'appelle Titi pour les amis. Hey, je vais vous demander, est-ce que vous pouvez venir chercher ma bombe dans ma voiture ?
Ça fait mal.
Un cheval qui essaye de s'échapper.
Oui.
C'est bon, là, ils l'ont calmé.
Non, mais c'est parce que...
Ça va, Baudouin ?
Oui, ça va très bien.
C'est vous, le président, on peut dire, voilà. D'un club. Le
président d'un club qui s'appelle Sochas, qui a été créé il y a un an et demi. Et moi, l'idée, c'était aussi de montrer que la chasse n'est pas qu'une seule transmission de famille. Ça peut être aussi, tout à fait, à part des rencontres d'une personne passionnée, se dire, tiens, pourquoi pas moi ? C'est aussi une démarche de réseau. Et pour le coup, la chasse est un réseau magnifique parce que quand vous mélangez des générations, quand quelqu'un qui est à la chasse le week-end se dit, tiens, voilà, j'ai mon fils qui cherche un stage, je cherche une propriété, je cherche à déménager, je cherche... Voilà. C'est plus simple de le faire dans un univers comme celui-ci. Donc il y a un côté réseau qui est hyper utilisé, qui est hyper fort, ouais, complètement. Ouais, ouais.
Et ça arrive que certains aient réussi à trouver un métier grâce à la chasse, grâce à ce réseau.
Ah oui, j'ai envie de dire oui, complètement. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Et d'ailleurs, quand on reprend les grandes chasses présidentielles, etc., il y a beaucoup d'accords qui se sont faits pendant des chasses. Beaucoup d'accords. Et vous avez beaucoup de personnes en France qui sont très connues qui chassent. Olivier Dassault chasse, David Douillet chasse. Vous avez plein de sportifs. Vous avez la moitié des...
Les Bouygues aussi.
Les Bouygues, bien sûr, les Bouygues. Mais vous avez aussi la moitié du Stade Toulousain qui chasse, des équipes de rugby. Donc il y a certes aussi bien les personnes qui ont très bien réussi, je dirais, dans l'économie, mais qu'aussi des grands sportifs, que des artistes, etc. Et moi, je trouve ça dommage que des personnes qui sont connues, mais ne le disent pas. Parce que ils ont peur de oui mais enfin si vous aimez la chasse il faut c'est quand même faire sa promotion, c'est pas le tout que de le cacher et que de le week-end de se planquer à ce niveau-là.
Alors il y a des personnes qui ont déjà trouvé des boulots grâce à la chasse,
ouais.
Grâce à votre club.
Bien sûr, j'ai pas mal de personnes qui sortent d'école. J'ai peu d'étudiants parce qu'il y a quand même une cotisation à payer annuelle, etc. Mais en revanche j'ai beaucoup de personnes qui sont jeunes diplômés. Dès qu'on me pose la question, on me dit tiens je cherche etc. Je mets en relation tout de suite. Et le fait d'appeler de dire on fait partie du même club, on fait partie de Socha, etc. Je me permets de t'appeler parce que Baudon ou un tel m'a donné tes coordonnées. Donc oui, complètement.
Quel boulot ?
C'était dans l'audit.
Et des histoires d'amour ? Il y a eu des histoires d'amour ? Des rencontres, des mariages ?
Il y a des histoires d'amour, oui. Il y en a, effectivement. C'est vrai qu'on est le premier club en France en termes de présence féminine. On a 35% de femmes. Donc sur 450, on a pas loin de 150 femmes dans le club. Et donc, qui plus est, des femmes qui ont entre autres 25 et 35 ans. Donc forcément, une femme qui aime l'équitation, ou qui aime bien, on fait des choses sur l'œnologie, on fait des choses sur le polo, le horseball, etc. Eh bien oui, il y a des rencontres. Et il y aura peut-être même bientôt un jour des mariages. Et je pense que 2013, c'est un bon cru à mon avis.
chasse à cours. Et en forêt de Fontainebleau, Cavalier et Amazon ont pris le départ pour la première chasse de l'année. Année qui promet d'ailleurs d'être fructueuse.
ORTF, 1949.
Pauvre cerf, il saura se défendre longtemps, dépister ses poursuivants. Mais la meute est là, trop forte pour lui. Et ce sera, au son des trompes, la lalie classique. Un reste coloré de ce fameux temps des équipages dont notre époque semble garder une infinie nostalgie.
Il parle à la dame ?
Non, je parle à mon cheval.
Il parle à la dame. Il s'appelle comment, votre cheval ?
Django. Il a 22 ans. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui chassait. À l'époque où j'avais un cheval, pour moi c'est plus agréable de chasser avec mon cheval que de louer un cheval. C'est quand même un milieu qui est assez fermé. Si on ne connaît pas quelqu'un par relation, on ne rentre pas comme ça dans un équipage en général. Moi j'ai fait parce que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'une amie, sa belle-sœur, qui chassait. Et on a parlé chevaux et elle m'a proposé de venir là. C'est le maître d'équipage qui décide s'il accepte de les prendre dans l'équipage. Bon, moi, ça s'est bien passé. Au bout de 2-3 fois, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je me suis intégrée dans l'équipage. Mais
au départ, il faut être coopté.
Ben, oui, il faut être coopté, voilà. Allez, si on connaît quelqu'un qui fait déjà partie et qui vous amène, qui vous invite.
C'est un peu comme dans un rallye.
Voilà, ouais, c'est ça.
Et après, donc, vous devez verser
Cotisation. D'abord, on a une épingle. On peut prendre une épingle. Ensuite, on peut prendre un gilet. Et après, on prend un bouton. Et le prix augmente en fonction de l'habit qu'on porte.
Ça coûte combien pour être bouton ?
Pour être bouton, un adulte, ça me coûte 1600 euros.
Par an ?
Par an, oui.
Il y a des équipages qui se veulent plus prestigieux. Et là où c'est 4 000, 6 000 euros.
Ouais.
Ce qu'il faut que vous disiez à vos auditeurs, c'est que la vénerie, ce n'est pas un sport d'aristocrate, de milliardaire. Hein ? Ici, dans notre équipage, il y a des gens qui ne prennent pas de vacances du tout, simplement pour venir chasser. Alors, il ne faut pas faire croire à vos auditeurs que c'est un sport d'aristo, un sport de riche et de milliardaire. Oui, ça coûte un peu cher. Oui, ça coûte un peu cher.
Parce qu'il faut avoir l'histoire, il y a de la location du cheval quand même, qui représente 150 euros par chasse. Hein.
Alors évidemment, un hérémiste, je ne sais pas s'il pourrait chasser. Hein. Mais il ne faut pas non plus nous faire passer pour des aristos. Ça, c'est... Il y a des aristocrates, bien sûr, et dans notre équipage. Ils sont bienvenus, et il y a des aristocrates qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui continuent à chasser.
Voilà, la chasse à cours dans la forêt de Fontainebleau. Je parlais des opposants à la chasse. La corrida suscite la réprobation, des mouvements extrêmement forts contre la corrida, contre d'autres formes de chasse. La chasse à la palombe, par exemple. On avait fait un reportage il y a quelques années dans la basse, j'y suis, sur la chasse à la palombe. Il y avait une levée de boucliers parmi les AMG, les auditeurs de la basse, j'y suis. Quelle horreur, etc. Mais la chasse à cours, peut-être parce que ça ne concerne pas les mêmes classes sociales, la corrida, la palombe, tout ça, c'est quand même ça concerne plutôt des classes populaires, plus populaires en tous les cas, que la chasse à cours. Peut-être, c'est peut-être la raison pour laquelle on ose moins s'attaquer à la chasse à cours. Et pourtant, le rituel est extrêmement, peut être considéré quand même assez facilement comme extrêmement sauvage. Comme on va le voir dans ce reportage. Là, il faut rappeler que cette forme de chasse avait été abolie par la Révolution lors de l'abolition des privilèges le 4 août 1789 et rétablie ensuite par Napoléon qui avait par ailleurs, on s'en souvient, également rétabli l'esclavage. Alors comment ça se passe ? Eh bien comme ça.
Alors là, on est sur un attelage. On est sur une espèce de petite charrette avec... Comment vous vous appelez ?
Jean-François.
On a un cheval noir. C'est votre cheval ?
Oui, oui. Nous avons 4 chevaux pour parler à la chasse à court, quoi, pour aller à la chasse. Doucement, madame, doucement. Alors, attends, on va passer là. Yeah, gauche. Yeah.
Ça y est, c'est le départ de la chasse. Alors là, on pénètre dans la forêt. On voit les cavaliers, les veneurs, qui sont juste devant. Et devant les cavaliers, alors il y a le maître d'équipage, Philippe, qui dirige ses chiens, qui mène ses chiens.
C'est les chiens qui lèvent le gibier. Nous, on ne tue pas du tout de gibier. On n'a ni couteau, ni arme, on n'a rien du tout. On accompagne donc les chiens, on les met sur un site et là, ils chassent. Ils chassent ou ils chassent pas, hein, ça, c'est selon s'il y a l'animal, s'il y a un animal ou pas.
Et nous, on est tout près du maître d'équipage et des chiens, mais pas directement avec eux, parce qu'en fait, le maître d'équipage chasse seul avec ses chiens. Là, il y a combien de chiens ?
38 chiens. Alors là, c'est le grand calme, évidemment, hein, avant la chasse. On va sur le site. Je pense que c'est encore une dizaine de minutes, peut-être.
Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Jean-François ?
Eh bien, je suis retraité, on peut le dire. Hein. Je me suis arrêté il y a 6 ans. Et un copain m'a parrainé pour rentrer dans cet équipage-là. Ça fait que ça fait une bonne activité.
Et on accélère ?
De passer
il
dans
galope là le cheval, hein ?
Non, non.
Non, il est au trot ?
Là, on est au trot.
Ah ouais.
Tout ça, c'est des anciens chevaux de course réformés. C'est tous des trotteurs.
Et vous m'avez pas dit alors ce que vous faisiez auparavant
alors,
comme
donc,
métier ?
Avant, j'étais commerçant. J'étais en poissonnerie, ouais.
Vous aviez votre propre poissonnerie ?
Voilà. J'ai fait ça pratiquement pendant 40 ans.
Il y a de la gadoue et du coup ça fait des trous. Alors faut bien s'accrocher. Voilà.
Oh pas. Marcher là. Marcher. C'est bien. Marcher là. Là-bas.
Là on est au cœur de la forêt. Et là on retrouve l'ensemble des veneurs à cheval qui sont rassemblés.
On va se rapprocher. Ça veut dire que la chasse est en cours. Les chiens commencent à... On appelle ça quêter. C'est-à-dire ils sont à la recherche du chevreuil, quoi.
On les voit courir là-bas, sur la droite.
Si ça démarre, ça va aboyer. Enfin, on appelle ça les chiens, ils chantent. Ça va chanter dans tous les sens et c'est parti. Mais dans combien de temps ? Une minute, 10 minutes, je ne sais pas.
On se rapproche. Hop là, on monte sur un petit amas de terre et là c'est un tout petit chemin.
Mais c'est bien regardé parce qu'on peut voir un animal. Hein. Devant nous... on peut pousser un animal, comme on est plusieurs cavaliers, on fait quand même un petit peu de bruit. Et d'un seul coup, il peut surgir un animal. Il ne faut pas qu'on parle, il faut laisser les chevaux marcher. Ça les effraie moins, les animaux sauvages. Là, les chiens, ils sont en train de fouler le terrain, ils regardent. Ils cherchent. Mais est-ce qu'il y a du gibier ou pas ? Est-ce qu'il y a un animal ? Je ne sais pas. Il y a un peu de sentiments, on appelle ça des sentiments.
Les sentiments, c'est quoi ?
C'est les odeurs du chevreuil. On appelle ça des sentiments.
On s'arrête ? Qu'est-ce qu'on fait là, Jean-François ?
Là, on attend, on est dans un carrefour et on attend que les chiens lèvent le gibier, quoi. C'est la chasse.
On est sur la route du Prince Royal.
Bah, s'il vous plaît, quand même.
Hop là, le cheval repart au trot dans l'allée.
Vous me dites si ça va trop vite, hein, ou si vous avez peur. Hein.
Non, ça va, j'ai pas peur, mais c'est vrai que ça se coupe. Alors là, les chiens cherchent l'animal. Ils sont en train de tourner en rond. De sentir, là, il y en a un qui surgit, là.
Ce genre de chasse, c'est un peu comme la pêche. Comme la pêche à la ligne, ça paraît idiot, mais c'est de l'attente, c'est de la patience.
Les chiens sont sur notre droite. C'est quoi comme chien?
C'est des Français tricolores. C'est une race de chiens pour le chevreuil, voilà.
C'est des grands chiens.
Ils peuvent chasser facilement pendant 4 heures, 4-5 heures, hein, quand même.
Ah, il y a les petits poneys là-dessus.
Je passe à gauche. Merci. Je passe à gauche. Ah. Vous risquez de voir le chevreuil, peut-être. Regardez bien par là.
On regarde sur notre droite.
Il est par là, attends.
Ils sont où les chiens là, on les entend?
Ils sont là.
Ah, ils sont juste devant nous, ils passent, ils foncent. Le chevreuil doit être sur notre gauche.
Ouais. Il a filé.
Il a filé à gauche. Là-bas, ouais. Faut qu'on fasse demi-tour. Là, il y a les chiens qui foncent sur notre droite, c'est incroyable. On les voit passer là, juste devant nous. Il faut qu'on fonce à gauche. On s'arrête. Vous avez vu le chevreuil?
Non, j'ai pas le temps. Non, il y a du monde devant nous. Là, vous êtes en pleine chasse. Là,
on est en plein dans la chasse. Il y a des chiens qui passent devant nous, qui foncent, là, qui nous barrent la route. À nouveau, on poursuit le chevreuil là.
Ouais. Ah, celle-là est à droite.
Comment vous savez ça?
Je pense que elle a fait un signe. Chut. Tiens, on entend. Ça chasse.
L'animal a fait une double. Il recule.
L'animal recule. Je pense que l'animal, il est en défaut, c'est-à-dire que les chiens ont perdu la voie. Pas perdu momentanément. L'animal nous a fait une petite ruse.
Est-ce que ce qui se passe, c'est que le chevreuil, il a des ruses pour échapper aux chiens?
Énormément. Énormément de ruses. Et là, il va les faire toutes, évidemment, une par une. Il revient sur ses pas, il se met en défaut, c'est-à-dire il se tapille le long du sol. Oh oh oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, oh.
C'est sublime là, ouais. Ah. Avec le froid, les chevaux font de la fumée. C'est étonnant parce qu'il y a des enfants qui sont à cheval, enfin sur des poneys, et qui chassent déjà. Ils sont tout petits, hein. Ils ont quel âge? 3 ans, 5 ans.
Oui, ça, pas plus, hein. Oui, ils sont pas 5 ans. Ah. Ça rechasse. C'est reparti. Ils ont retrouvé l'animal. Et là-bas.
Le chevreuil est sur la droite.
Ça doit être une chèvre en principe, il y a eu 3 coups.
Une chèvre?
Ouais. Le mâle, on appelle ça un brocard, et la femelle, on appelle ça une chèvre.
Donc là, on poursuit une femelle en fait.
En principe, oui.
Il y a eu 3 coups de trompe.
Non, 3 coups de pibole, on appelle ça. Doucement, bonhomme. Yeah. Attends.
Ah,
Les chiens sont là. J'ai trop chassé les chiens. Vous entendez ?
Là, à travers les arbres, là, on voit les chiens. Oh, ça y est, ils viennent de se précipiter sur la bête. Là, ils sont dessus. Ça va très très vite. Ça va très vite, là, je crois qu'ils l'ont tué.
Au milieu des chiens, juste derrière le maître d'équipage qui est à cheval. Il est où le chevreuil alors ?
Bon, le chevreuil, il faut le baguer parce qu'on a une bague là quand on en attrape un, parce qu'on a un quota à faire et un quota de prélèvement tous les ans.
Faudrait gagner,
on a gagné. Mais on va y aller parce qu'on est à côté des chasseurs à tir qui sont très gentils, mais on va y aller.
Là, on rentre de la chasse, Jean-François.
Voilà, on revient au rendez-vous. Et là, donc, on va faire la curée. Il va y avoir des pieds d'honneur qui vont se donner à des bons chasseurs. Salut, Cap.
Ça va ?
Ouais. Bon, il y a tout un rituel, évidemment. Un maître d'équipage hyper joyeux. Parce que chasser comme ça, bien fait, rapidement, ça... Ça l'excite.
C'est la montée d'adrénaline.
Ah oui.
C'est ça ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on en fait après du chevreuil ?
Bah, les chiens à la curée, vous allez le voir tout à l'heure, ce qu'ils en font. Il est mangé.
C'est les chiens qui
l'ont ? Ah bah oui, ah bah oui.
Ah, c'est pas vous ?
Ah non, nous, jamais, même pas un gramme. Que pour les chiens.
Pourquoi ? Parce que c'est pas bon ?
Si, bien sûr, c'est délicieux. Mais honneur aux chiens. C'est eux qui l'ont chassé, c'est pour eux. Nous, on fait ça vraiment que pour la classe.
Ça va, Daniel ?
Ça va ?
Pourquoi ?
La gauche du toc, ça vaut le Maroc. Il est 100 fois mieux en Algérie qu'en Russie. Mitterrand. Pardon. Vous avez, c'était pas pris, j'espère ?
C'est quoi comme chanson ?
Oh, c'est du
non, c'est...
Laissez ça. Ça va, hein ?
Il y a le chevreuil qui est à terre, mort.
Ça va, hein ? Vous voyez comme il est mignon ?
Il va tomber.
Combien vous lui donnez ? 2 ans ?
Oui, c'est ça.
2 ans.
Il a déjà été mangé en partie, hein ?
Non, on a préparé la nappe pour que les chiens puissent ensuite manger ce qu'il y a dessous.
Ah oui, vous l'avez ouvert.
Voilà, on l'a préparé. On l'a préparé, donc on va retirer la nappe, c'est-à-dire la peau tout à l'heure, et les chiens vont se précipiter pour manger tous ensemble. C'est la curée, expression qu'on retrouve dans le langage courant.
Bonsoir. Il faut se reculer, donc il y a le chevreuil qui est par terre. Non, il est ouvert en deux. C'est bizarre, hein.
Laissez-le.
Il y a les chiens qui sont en train de le renifler, le lécher.
Le petit tout, il est où, là ?
Et puis il y a un monsieur qui est là, qui fouette tout doucement le chevreuil et les chiens pour pas que les chiens s'approchent trop. Là, ils sont en train de le lécher. maître d'équipage qui rappelle ses chiens.
Laissez ça.
Ah, là, il y a un chien qui a enlevé la peau du chevreuil et en dessous, il y a le corps du chevreuil ensanglanté. Et les chiens essayent d'attraper le corps ensanglanté.
Allez, d'accord.
De dévorer la bête, là il se précipite dessus. Ah, ils ont déchiqueté la bête, il y en a un qui est parti avec un gros morceau. Les chiens sont en train de manger la bête. Ils sont en train de lécher le sol là pour récupérer les derniers morceaux. C'est incroyable, ils ont mangé tout. Hein. Deux secondes, tout est parti. Il y a un chien là qui a la gueule ensanglantée. C'est en train de se disperser un peu dans la forêt pour manger les morceaux de chevreuil. En 5 secondes, tout était mangé. Alors c'est très très ritualisé. Pendant que les chasseurs jouent de la trompe, les autres regardent la scène, les chiens qui finissent de manger les restes de chevreuil. Qui lèche le sol, qui gratte le sol.
Ah, bravo à tous! On aura le temps maintenant de bavarder pendant le pique-nique. On chasse mercredi à Bertrange, samedi à Fontainebleau et mardi d'après à Fontainebleau. Aux agapes!
Voilà, aux agapes, après la curée. Étrange rituel, étrange sacrifice qui renvoie à des archaïsmes séculaires et qu'on pourrait croire en voie de disparition, quelque chose qui s'accroche, un reliquat d'une culture ancienne ou d'une pratique ancienne. Et bien pas du tout, ça se démocratise entre guillemets, comme il est dit, et il y a de plus en plus de ces équipages à travers le pays, évidemment que des amateurs de vénerie venus d'Allemagne, de Belgique, d'Angleterre, où ces pratiques sont désormais interdites, viennent chasser en France, en dépit d'une réprobation majoritaire en France. Selon des sondages, environ 70% des Français se disent opposés à ces pratiques. Mais le lobby sait très bien s'y prendre. Beaucoup de ceux qui participent à ces chasses sont des gens, on l'a dit, qui appartiennent, disons, aux élites, à l'élite et au cercle de pouvoir, où ils en sont proches, ils savent se défendre et s'organiser, et aussi se réjouir. Aux agapes.
Voilà, donc là maintenant on se dirige vers le pique-nique. Alors il y a une grande table qui a été dressée. Et il y a une quarantaine de personnes qui sont autour en train de pique-niquer. Il y a une tarte, du vin, du fromage, du pain, de la mayonnaise, des pâtés de lapin. Enfin, il y a plein de choses, mais il n'y a pas de chevreuil.
On se jette sur les miettes.
Comment vous appelez, madame ?
Je m'appelle Catherine. Je suis une des plus anciennes de l'équipage. Ça fait 25 ans et j'ai commencé avec un petit cheval, un petit pur sang avec lequel je concourais. Moi, j'étais passionnée parce que ma grand-mère, mes grands-parents chassaient à cour, avaient leurs chevaux aussi.
Donc j'ai troqué mon cheval de concours contre un cheval de chasse. Puis j'ai les chevaux à la maison. Et puis entre le boulot, les chevaux à la maison, la famille, mes deux filles chassent, elles ne sont pas là aujourd'hui, mais elles chassent aussi.
Elles ont quel âge ?
28 et 30.
Vous travaillez dans quoi ?
Dans les cheminées. Une boîte qui fabrique et qui pose des cheminées. Et je m'occupe du personnel, voilà.
Responsable du personnel ?
Du personnel, des chantiers.
Et les prix où, si c'est pas une trêve, vous les avez rencontrés comment ?
Eh bien, par Hubert Ancelin, qui était le club où j'avais mon cheval de compétition. Ils sont très amis. Madame Ancelin, d'ailleurs, est là aujourd'hui avec sa fille. Et puis, on a fait connaissance. Et puis, on est devenus amis.
Vos enfants sont amis avec les enfants des Priou.
Avec les enfants des Priou, exactement. Ah oui, parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils ont... Ma dernière fille, Mélodie, avait 2 ans et demi quand elle les a connus. Donc, c'est comme des frères, quoi.
Depuis longtemps dans ma famille... On fait de la vénerie. J'ai un grand-père, un arrière-grand-père, qui était déjà dans la vénerie. Donc c'est eux qui m'ont mis sur la voie de la vénerie. Donc c'est une tradition familiale. Moi, mon arrière-grand-père, il était piqueux de l'empereur Napoléon III. Le statut de piqueux était déjà le rang le supérieur dans les domestiques, je veux dire.
Vous avez des traces de ça ?
Oui, j'ai retrouvé récemment des traces de sa date de naissance, la période où il a chassé, là où il était logé. Il était logé, en fait, dans les communs du château de Fontainebleau.
Encore un gâteau ? C'est le troisième gâteau.
C'est à la framboise.
Les rois de France, beaucoup ont pratiqué la vénerie, pratiqué et aimé la vénerie. Le père de cet arrière-arrière-grand-père était piqueux du prince de Condé et du duc de Bourbon, qui était son fils. En fait, c'était le père et le fils. Le père a mis son fils aussi dans la vénerie, quoi. Enfin, c'était souvent pratiqué comme ça. Un statut de piqueux, il essayait de former son fils pour que son fils soit aussi piqueux du même équipage ou d'un autre équipage. C'est un métier, un statut. Quoi.
Qu'est-ce qui vient à Cheverny dimanche ?
Qu'est-ce que c'est dimanche ?
C'est une chasse qui est organisée dans le parc du château de Cheverny. Et là, le marquis de Vivray, qui est le propriétaire du château et l'animateur de ce château, a invité l'équipage de Rallye Tempête pour venir chasser dans le parc, qui fait 2000 hectares, dans le parc du château de Cheverny.
Voilà. C'est chic alors. Ça, c'est... Vous êtes invité souvent.
On est souvent
comme
dans
ça
les châteaux, oui, oui. On oui. fait des déplacements.
Il y a quelques déplacements comme ça qui sont programmés tout au long de la saison. À Cheverny, je crois qu'on va à Compiègne également.
Et vous chassez depuis combien de temps ?
Une quinzaine d'années, ce qui n'est pas exceptionnel. Mais il faut avoir du temps pour chasser. Il y a beaucoup de professions libérales, parce que ces gens-là peuvent se libérer en semaine plus facilement que les salariés, c'est plus difficile.
Vous êtes en profession libérale ?
Je suis dans une banque, mais bon, j'ai négocié mon temps de travail. C'est un peu une famille, un équipage. Hein. Les gens se suivent, cet équipage a 25 ans, il y a des gens qui se suivent depuis 25 ans.
Famille de chasse.
Voilà.
Ça, c'est quand on a envie d'honorer quelqu'un, c'est un bon bourguignon.
Voilà, à court, à corps et à cri, c'était un reportage d'Anaël Verzo. Merci à Baudouin de Saint-Léger, Pierre-François et Marie-Hélène Priou et à tous les membres de l'équipage du Rallye Tempête. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis, il y a aussi la page Facebook de l'émission. Je vous rappelle évidemment la manif de réoccupation de la zone à défendre, la ZAD, la ZAD, qui partira demain matin à 11h de Notre-Dame-des-Landes, et on vous en parlera probablement lundi, si notre grand reporter Antoine Chao arrive jusque-là, ce qui est probable avec son corps de chasse, vous le verrez sans doute demain. À la technique aujourd'hui, Renan Mahé et Fabien Laléouze, c'est Lucie Hakoun et Chloé Sanchez qui ont réalisé cette émission préparée avec Pierre-Yves Bulteau. Marion Dupas, ton message sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Thank you.
Écoutons un sociétaire de la Maïf nous parler de l'assurance d'essai RassureCap Solutions.
Remarié à 40 ans, un nouveau papa à 46 ans, c'était pas prévu. Alors j'ai voulu que toute la famille soit à l'abri. Du coup, à la naissance de Paul, j'ai augmenté le capital de mon assurance d'essai.
Avec le contrat RassureCap Solutions, vous pouvez augmenter votre capital de 5000 euros en cas d'événement familial comme une naissance, jusqu'à 4 fois pendant la durée du contrat, et ce, sans nouvelle formalité médicale. Maïf, assureur militant. Le contrat RassureCap Solutions est conçu et géré par Parnasse Maïf, filiale assurance vie de la Maïf.
Une femme sur neuf en France est atteinte d'un cancer du sein et plus de 10 000 femmes en meurent chaque année. Pour en parler,
860 000 Français souffrent aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer. Plus de 225 000 nouveaux cas sont recensés tous les ans et les
130 000 personnes sont frappées chaque année en France par un AVC. C'est la première cause de handicap acquis chez l'adulte.
Le plus insupportable serait de devoir choisir entre ces maladies. En donnant à la Fondation pour la recherche médicale, vous choisissez de lutter contre toutes les maladies. Pour que la recherche bénéficie à tous, faites un don sur frm.org.
France Inter présente Après mai, le nouveau film d'Olivier Assayas, actuellement au cinéma.
Dans le contexte actuel, le militantisme ne mène à rien.
Le moment de l'action est venu.
Au début des années 70, Gilles est un jeune lycéen un peu rêveur. Ce que lui reprochent ses camarades, pour qui l'engagement idéologique doit être total. De rencontres amoureuses en découverte artistique, Gilles et ses amis vont devoir faire des choix décisifs pour trouver leur place dans une époque tumultueuse. Retrouvez Après mai d'Olivier Assayas dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire de la soirée événement avec Michel Legrand le 4 décembre au Palais des Congrès. Des invités prestigieux, des moments inédits, vivez une soirée exceptionnelle avec Michel Legrand et ses 70 musiciens pour un hommage vibrant au cinéma. Michel Legrand, le 4 décembre au Palais des Congrès à Paris, en partenariat avec France 3. Un événement à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h sur Inter, on se retrouve lundi à 15h pour la basse et j'y suis. Bonne fin de semaine à tous dans le bocage. Je vous laisse pour les infos avec Anne-Laure Chouin. Salut.
Des milliers de Palestiniens ont manifesté en Cisjordanie ce vendredi en appelant le Hamas à frapper Tel Aviv, la capitale israélienne. Depuis jeudi, 3 roquettes sont déjà tombées sur la ville et le Hamas vient de revendiquer un tir sur Jérusalem où les sirènes retentissent en ce moment. Depuis le lancement de l'opération militaire israélienne Pilier de défense et l'assassinat d'Ahmad Jabari, le chef militaire de l'opération terrestre, 16 000 soldats réservistes ont été rappelés. La joie à Barjac dans le Gard après que Chloé a été retrouvée par des policier allemand. La jeune fille de 15 ans avait disparu depuis une semaine. Elle a été retrouvée saine et sauve dans le coffre d'une voiture près de Strasbourg dans la région d'Offenburg au hasard d'un contrôle routier. Son ravisseur a été interpellé, originaire du Gard. Il avait déjà été condamné en France pour agression sexuelle. La France va requérir un mandat d'arrêt européen contre lui. 17 ans après le meurtre de Stéphanie, étudiante de 18 ans retrouvée étranglée dans la baignoire de son studio lillois en 1995. Ce meurtre donc est en passe d'être élucidé. Un gendarme a été arrêté ce matin dans les environs de Nice. Il a reconnu les faits. Anne Pinkson-Dussel.
L'homme est un père de famille d'une quarantaine d'années. Depuis le mois de juillet, il était adjudant-chef à Nice. Cet homme, c'est en fait le beau-frère de Karine, la colocataire de Stéphanie, à l'époque celle qui avait découvert le corps. Quand elle a appris la nouvelle, hier matin, la famille de Stéphanie a été soulagée. « Ça va nous permettre de faire le deuil », a dit le frère de Stéphanie, « mais on sait que les jours qui viennent ne vont pas être faciles ». Le suspect a en partie avoué les faits. Au début de l'enquête, un poil pubien avait été retrouvé sur le corps de la victime. C'était le seul indice. Le suspect aurait été confondu par son ADN. Il doit être transféré à Lille dans la journée pour être entendu par un juge. À Lille, France Bleu Nord, Anne Pinkson-Dussel pour France Inter.
La police de Calais, épinglée par le défenseur des droits, Dominique Baudis a déploré ce matin les violations par les forces de l'ordre des droits des migrants présents dans la région de Calais. Il a demandé au ministre de l'Intérieur d'y remédier. Après enquête de ses services, Dominique Baudis dit avoir effectivement constaté un harcèlement constant des migrants par les policiers. Migrants qui voient parfois leurs maigres affaires détruites ou jetées. Ils sont 220 à Calais et aux alentours. Et puis 63 centimes d'euros. Ce sera le nouveau prix du timbre à compter du 1er janvier prochain. Il augmente de 3 centimes pour les lettres prioritaires de moins de 20 grammes, une hausse de 2,8%.
Nous autres.
Moi, je considère que mon rôle est de contrôler les actions du gouvernement et je suis aussi un lien qui permet au gouvernement de communiquer avec la population de travailleurs migrants.
Zoé Varier.
Zhang Xinqiang est un homme exceptionnel.
Mais aux yeux du gouvernement, je suis plutôt leur ennemi.
Ouvrier paysan, révolté contre sa condition, il est devenu avocat pour faire respecter ses droits.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h. France Inter.
La voix est libre.
Et sur France Inter à 16h04, on parle musique avec Sylvie Chapelle.
Avec Sylvie Chapelle, on parle musique.
J'ai chanté un concert à Santander, en Espagne. Pendant ma première phrase dans le concert, ces trois vieilles femmes dans le public, ils ont commencé à rigoler. Et le garçon qui m'a conduit, le chauffeur du festival, a dit « You can have children !» Vous pouvez avoir des enfants. Et je dis oui, j'ai une fille de 12 ans. Et mon prof de chant always, dit toujours Even countertenors have to sing with balls. Alors même les contre-ténors ont chanté avec, comment dire, testicules.
André Scholl, bonjour.
Bonjour.
Vous vous souvenez du moment que nous avons passé ensemble oui. Il y a 2 ans dans cette Ducatique, oui. Mais c'est pas grave.
Pas en détail, comme j'ai entendu, mais je me souviens.
Moi, j'avais bien ri en tout cas. Et puis les auditeurs se souviennent très bien de vous. Nous avons eu des messages pendant des mois. Nous avons même rediffusé l'émission avec vous il y a quelques temps, tellement elle nous était demandée. Et nous sommes évidemment très heureux de pouvoir donner l'occasion à nos auditeurs de vous entendre à nouveau. André Scholl, vous parcourez le monde avec votre voix de contre-ténor et ça fait 20 ans que ça dure. En tout cas, en France, vous venez de fêter cet anniversaire à la salle Gaveau. Vous avez commencé à réellement vous faire connaître en remplaçant René Jacobs, qui était votre professeur à Bâle à l'époque, et qui vous a proposé à sa place pour un concert parce qu'il était souffrant. C'est souvent comme ça que ça se passe, hein, l'essor d'un chanteur. André Scholl, en plus de nous dire ce que vous faites et vous allez nous faire découvrir ce que vous aimez, est-ce que vous avez le temps et l'envie d'écouter de la musique avec ce que vous faites déjà ?
Oui, j'ai le temps d'écouter la musique, mais j'ai pas le sentiment, pas trop le temps pour aller dans les concerts. À ma maison, j'ai un très bon studio d'enregistrement. Alors, s'il y a un nouveau CD que j'aime, je vais dans le studio pour écouter, parce que c'est les enceintes beaucoup mieux qu'à la salon. Alors, c'est un plaisir, une combination de musique et d'être audiophile pour avoir l'excitation d'un bon enregistrement.
Vous avez commencé à chanter dans un chœur d'enfants, dans un petit village d'Allemagne qui s'appelle Kidrich, des motets, du chant grégorien. C'est une période très importante pour vous. Les œuvres que vous avez chantées à l'époque, vous les écoutez encore aujourd'hui?
Oui, parfois je chante maintenant. Par exemple, dans le nouveau disque, je chante « Abendempfindung ». C'était la première chanson de Mozart que j'ai travaillée avec le prof du chant de notre chorale à Kidrich quand j'étais 15 ou 16 ans. Sinon, le répertoire, certainement, maintenant c'est plutôt le répertoire solo, mais on a aussi chanté le Passion selon Saint-Jean avec ce chorale-là. Alors parfois, je rencontre une ancienne amie, un ancien morceau, comme une folk song, Mein Mädel hat einen Rosenmund, dans le nouveau CD. C'est aussi une chanson qu'on a chantée avec la chorale.
Votre discothèque personnelle contient d'autres genres de musique. En ce moment, vous écoutez Idan Reichel, un jeune compositeur et pianiste israélien. Comment vous l'avez-vous découvert et qu'est-ce qui vous a plu dans cet artiste?
Il y a 6 ans que j'ai rencontré mon épouse, Tamar, à Bâle. Et on a commencé à boire un café ensemble. Elle m'a dit « Ah, comme c'est un peu l'habitude, dans les années 80, on a fait une copie d'une cassette ». Pour la copine ou pour le copain. Et elle m'a donné une CD de Idan Reichel. Et J'aimais la musique beaucoup comme une songwriter sérieuse. C'est musique pop, mais c'est musique pop pour les adultes. C'est quelqu'un qui travaille avec les influences de musique ethnique, les chants des Juifs, par exemple au Yémen ou en Éthiopie. Alors, c'est des éléments de musique africain, aussi des dialectes en swahili ou quelque chose avec en marocain, les langues arabes. Quelqu'un qui fait beaucoup d'intégration de toutes les cultures qui se trouvent en Israël.
On écoute donc Idan Reichel dans Mima Amakim.
Nano,